C'est vraiment parallèle.
À Colline, c'est pour As. Bon, j'avais failli mettre un mot ou deux pour leur demander pourquoi ils ne citaient pas la table, mais bon. Alors, c'est parti. Vous allez voir, enfin, des étapes, il y en a, pardon, 7. Alors, phase préalable du visioning, selon la TAM, collecter toute l'information de l'organisation, aussi bien par les réseaux formels, hiérarchiques classiques, que par le réseau informel, ahiérarchique, moderniste, tout ce que vous voulez. Collecter toute l'information sur l'organisation à un moment donné. Toutes les méthodes envisageables, sondage, questionnaire anonyme, entretien, sous-traitance. Ça doit vous rappeler furieusement.
Ben quoi ?
La mémoire. Ça traite de recherche. C'est exactement ce qu'on peut faire dans un mémoire. Collecter toutes les informations possibles. Et on aura justement tous les choix méthodologique, est-ce que c'est le questionnaire le plus normal ? Toutes les questions que vous êtes posées l'an dernier pour votre mémoire de M1, hein, c'est plutôt sympa, ça, de se dire, au fond, ce que j'ai fait, ça se récupère intégralement dans un travail à finalité professionnelle. Hein ? Bon, donc on collecte cette phase d'information. Je pense qu'on peut dire que pour cette première phase, le rôle de la communication peut apparaître, allez, on se la joue modeste, peut apparaître comme, vous mettez le mot que vous voulez, indispensable, c'est peut-être un petit peu fort, nécessaire, ça n'est pas suffisamment, peut-être entre les deux. En tout cas, le rôle de la communication est absolument vital pour être encore plus fort. Ce qui donne comme idée un peu plus nouvelle peut-être, alors pour vous ça ne l'est pas trop, c'est d'essayer de constituer des petits panels d'unités fonctionnelles entre 5 et 7 personnes. Un ou plusieurs petits groupes. Et les groupes en question étant pris sans souci hiérarchique, parmi ceux qui sont compétents pour la bonne connaissance de l'organisation. Autrement dit, on pourrait y mettre, pour parler simple, un cadre dirigeant, un syndicaliste, un exécutant, à voir par quoi vous complétez, autant pencher la balance, soit du côté des salariés de base, soit du côté du management. Là encore, ça dépend si vous voulez faire une vision qui va être très très basiste, ou au contraire, une vision qui sera plutôt celle des chefs charismatiques. Leur poser une série de questions, il y a le mot question qui a dû partir, mais c'est pas grave, donc à ces gens-là, leur poser une série de questions, parmi lesquelles, voilà celle que propose la TAM. Je vous l'ai systématisé, hein, comme pour Colline Séporas, je vous rends ça immédiatement exploitable. Bon, quelle serait la culture organisationnelle parfaite ? C'est les questions ouvertes, hein, bien sûr. Si on l'applique à... Alors, soit à la formation, ici, au master, soit à la fac, ou à l'université, ben voilà, quelle serait la culture organisationnelle parfaite. Comment est-ce qu'on pourrait concevoir une culture qui prendrait en compte les valeurs constitutives du service public, de la recherche, c'est simple, les questions. Vous voyez bien que ça risque de partir dans tous les sens, et c'est normal, puisqu'on a plein d'acteurs. On est seulement dans la collecte de l'information. Et à ce niveau-là, il ne faut pas s'étonner que ça parte. Mais vous avez l'habitude de faire ça dans un mémoire, ça a dû vous arriver, de gérer des tas d'informations, et un moment ou un autre, on se dit, oh là là, j'ai où ? Ah ouais. Vous voyez à quel point c'est proche, c'est ça qui est patent, pourquoi j'ai pris cette méthode, à quel point c'est proche de ce que vous savez faire, et qui justifie complètement qu'un communicant de Bac plus 4 ou 5, 4 l'an dernier et 5 cette année, puisse s'inscrire dans cette démarche. Donc, quelle serait la culture organisationnelle parfaite ? Qu'est-ce qui, selon vous, peut faire en sorte que cette culture soit la meilleure, la plus... Hein, voilà. Qu'est-ce qui est fait pour le perfectionnement de ses membres ? On va encore retourner un petit peu autour de la motivation, là, l'objet de la question du début, hein, mais sans le dire. Qu'est-ce qu'il y a de bien pour le perfectionnement de ses membres ? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? fait ce qu'elle pourrait faire.
De bien ou de mieux,
hein, si c'est déjà bien. Si une entreprise libérée au sens libéral et compagnie, là on part de très haut dans une entreprise libérée.
Bon, mais comme elles ne sont pas très, très nombreuses et libérées, les autres, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer. Alors vous pouvez dire la performance, mais là, voyons, hein, le perfectionnement de ces grandes. On essaye dans cette approche, alors ça c'est aussi peut-être à prendre en compte. Alors attention, j'ai un petit bémol. Dans l'approche nord-américaine typique, on n'a pas de scrupule à mélanger le développement professionnel et le développement personnel. Pour eux, ça va ensemble. Nous, en France, il faut peut-être justement se méfier du mot perfectionnement. Hein, quand on dit ça, le perfectionnement, nous, on sépare vraiment le monde professionnel du monde personnel, familial. On fait une dichotomie très très forte entre les deux. Et généralement, les gens, les salariés n'aiment pas trop qu'on associe l'un à l'autre. Vous en parlerez pour le coaching, par exemple, soit avec Pierre Barrère, Jean-Claude Loiseau. Parmi les coachs, il y a ceux qui font un coaching systémique, c'est le cas de Carmen, par exemple, de Cavalier, qui étant dans le systémique, fait un type de coaching qui est très très psychologique et va très loin dans la manière dont les gens fonctionnent. Et d'autres qui, au contraire, séparent radicalement le coaching professionnel du coaching personnel. Vous voyez, là, on a, nous, en France, des lignes de partage, parfois même de rupture, tellement fortes qu'il serait dangereux de les transgresser. Ça, c'est des questions que vous allez reprendre, parce que à quel niveau est-ce qu'on peut séparer le professionnel du personnel, hein? Facile à dire. On dit, oui, mais quand je viens au bureau, j'abandonne mes problèmes perso, et réciproquement, quand je rentre à la maison, j'abandonne mes problèmes de bureau. Bah ouais, l'atelier, bon. C'est un peu formel quand on dit ça. Hein. Bon. Donc, si la position américaine, est-ce qu'elle est plus vaste que nous, elle se comprend, mais nous, on ne peut pas aller contre non plus une vieille subdivision entre le travail. Enfin, au fond, on vient donner sa force de travail, mais il n'est pas question que l'entreprise s'occupe de quoi que ce soit. On regarde aussi la façon dont le mot paternaliste, nous, on a forgé ce mot paternaliste. Quand une entreprise, déjà au siècle dernier, hein, même au 19e, faisait du social, il y a des pays dans lesquels on voyait ça de manière positive, nous, on a inventé le paternalisme. Le paternalisme, c'était au fond le moyen qu'avait le patron de mieux exploiter les ouvriers, ça concernait les ouvriers, en leur mettant tout un dispositif social qui les rendait encore plus tributaires de l'organisation de travail. Bon, ça se discute, hein, ce sont de vrais débats, d'ailleurs, hein, qu'on ne peut pas escamoter. En tout cas, c'est comme ça que pensaient les gens. Bon, troisième type de question, c'est à peu près, hein, on est toujours dans le même ordre, on cherche la perfection là-dedans. Quel produit ou service une organisation parfaite offrirait-elle à ses clients ou à la communauté? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Là, on est dans l'ordre de la boîte à idées. On retrouve pratiquement la démarche japonaise des cercles de progrès ou de qualité. Laquelle démarche a fonctionné dans beaucoup de... Enfin, fonctionne, a fonctionné quand elle a été créée. Elle fonctionne dans beaucoup d'organisations, beaucoup de pays. Mais fonctionne très très peu ou assez mal en France. On a eu ici même un super mémoire ancien maintenant sur les cercles de qualité au service communication chez Michelin Clermont-Ferrand, donc au siège. Comment est-ce que dans une usine Michelin, à l'époque il y avait encore une usine de production, Clermont-Ferrand maintenant n'a plus beaucoup de production, bon, ils en maintiennent un petit peu, mais pas trop. Comment est-ce que chez Michelin, les cercles de qualité ont super bien marché? C'était la belle com, parce que pour que ça marche, eh bien, il faut essayer de réduire les distances hiérarchiques. Il faut donner tout de suite des réponses aux questions qui sont posées. En France, on n'a jamais fait ça, de faire le fait que le cercle de qualité est progrès. Parlez-en avec vos intervenants, si vous voulez, vous allez voir, ça n'a pratiquement pas marché, sauf dans quelques boîtes comme Michelin, par exemple. Mais ça marche plus dans des boîtes techniques, parce qu'on a des suggestions techniques. Sur la machine machin qui veut faire ça autrement, ok, dans les services, c'est plus compliqué. Enfin, à voir, est-ce que dans une banque, on ne peut pas non plus faire améliorer les produits bancaires, hein.
chez Orange. Il y a sûrement des gens qui ont dit Orange que peut-être ils allaient se faire tailler les coupures par Free, qu'ils auraient peut-être dû faire quelque chose. Il a fallu attendre un bout de temps qu'ils inventent Soch. Et puis les autres, je dis Orange, mais essaient de faire pareil. Et oui, enfin, bon. Sauf que je connais le mot Soch et Orange, je ne connais pas les autres. Et voilà, c'est tout.
Bon, donc quel produit ou service vous pourriez offrir, etc. Si une organisation est parfaite, que peut-elle faire d'autre? Ah, genre de question qui, pour nous, en France, est une question très délicate et quasiment inconvenante.
Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Bah, attendez, une boîte, c'est fait pour faire produire des biens ou des services, terminé. Alors, quand je dis ça, je caricature. Il y a quelque chose qui a bien fonctionné dans la décennie, les décennies 90-2000. Essayer de mémoriser, mais ils sont toujours précis. C'est le thème des entreprises citoyennes. À la base de ça, vous avez toute la réflexion sur le mécénat. Hein? Si une entreprise est citoyenne, elle fait bien ce pourquoi elle existe, c'est-à-dire qu'elle produit ce qu'il faut, mais en plus de bien produire, elle essaie d'être citoyenne. Alors, il y a à la fois les préoccupations environnementales, et ça, ça a un poids très très fort. D'accord? Et puis, outre ces préoccupations environnementales, donc pas trop polluer, hein, vous avez aussi des préoccupations plus sociétales, pour le dire comme ça, qui passent par le mécénat, par exemple. Je dis mécénat parce que là, c'est l'endroit où ça converge. Je ne dis pas la même chose pour ce qui serait parrainage. Mais le mécénat peut très bien correspondre à cette question. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Eh bien, elle peut avoir une action de mécénat auprès de, que ce soit la culture, l'humanitaire, ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, même si, a priori, ça ne correspond pas très bien à ce que nous, à la perception qu'on a de l'entreprise, il n'empêche que c'est bien comme ça que beaucoup d'activités non commerciales de pas mal d'entreprises peuvent être expliquées par cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Et après le mécénat, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ça vous occupe. Hein. Il est évident que le schéma de la table va prendre énormément de temps. Comptez plusieurs semaines à plusieurs mois. Plusieurs jours, si c'est une toute petite structure, évidemment. Deuxième étape, brainstorming. Il y a de soi que le brainstorming dont on parle est le vrai, entre guillemets, brainstorming. On l'a déjà dit, rappelez-moi juste peut-être la règle essentielle de base pour ne pas rater un brainstorming.
Pas de censure.
Voilà, c'est ça, très bien. Absolument aucun jugement. Quand quelqu'un propose une idée loufoque, hors sujet et compagnie, absolument aucun jugement, aucune censure, on en prend toutes les idées, quelles qu'elles soient. Sinon, on tue le brainstorming parce qu'après chacun va. On va peut-être ajouter un petit corollaire que nous, communicants, on peut bien faire passer. Essayer de fonctionner en groupe de pairs, c'est-à-dire d'abolir les distances hiérarchiques. Si vous faites un brainstorming entre pairs, donc on ne sera pas trop dans le jugement. Mais parfois, on est obligé de faire des brainstorming qui vont rassembler des gens de niveau hiérarchique différent. Et là, il faut faire en sorte que chacun puisse s'exprimer en confiance. En particulier, que sa parole ne soit pas jugée par le chef. Vous voyez, là, ça devient très compliqué. Le fait qu'il faut un animateur du brainstorming qui ait des qualités bien affirmées pour abolir, réduire en tout cas les distances hiérarchiques. Donc pas de jugement, pas de censure, mais également aussi, on va dire, fonctionnement par groupe de pairs, réduction des distances hiérarchiques, mise en confiance des acteurs. Ça, vous pourrez reparler avec Pierre Barrère et éventuellement. Le moment où on sait qu'un groupe fonctionne vraiment bien, que ce soit pour faire du brainstorming, dont on parle en ce moment, ou autre chose, c'est lorsque chacun des membres du groupe peut y exprimer ses peurs. C'est le moment où un groupe fonctionne. Quand un groupe fonctionne, on ose exprimer ses ses craintes, ses peurs, ses angoisses, ses interrogations existentielles ou métaphysiques ou ce que vous voulez. C'est la preuve que le groupe fonctionne. Vous savez bien entre vous d'ailleurs. Beaucoup dans lesquels on se sent très libre de s'exprimer comme on veut, d'autres au contraire on va être un peu sur la réserve. C'est exactement ça. Donc il faut créer dans cette opération de brainstorming des conditions pour que le groupe puisse exprimer ses peurs. Et c'est à ce moment-là que qu'on pourra faire du brainstorming. Là où ça se fait beaucoup dans les agences de pub, par exemple, vous savez qu'ils déploient beaucoup de moyens pour ça, mais c'est plus facile parce qu'en pub, ça fonctionne par pair. Les gens qui font du brainstorming en pub, ils font partie du même groupe de travail, ils sont à peu près au même niveau hiérarchique. Il y a parfois un directeur de création qui participe, mais la hiérarchie n'est pas trop pesante. Ce n'est pas le cas, évidemment, partout. Donc, mené par petits groupes, genre groupe de projet, ça s'inscrit bien dans la démarche projet, bien sûr. On peut le faire par toute forme de groupe, hein, pour des groupes managériaux. Quand les distances, par exemple, vous êtes dans une boîte, on va dire, dans lesquelles les distances hiérarchiques sont très grandes. Mettons la banque. Distance hiérarchique à la banque, ça n'a pas forcément, ça apparaît pas clairement comme ça, mais entre un cadre de banque et un autre, c'est pas pareil. Le milieu hospitalier, c'est aussi du même ordre. Donc quand vous allez dans des organisations où les distances hiérarchiques sont très grandes, mieux vaut ne pas mixer les acteurs. Vous n'y parviendrez pas. Ou alors vous allez dépenser une énergie considérable pour créer votre groupe, et pendant ce temps, vous ne ferez pas autre chose. Vous voyez, donc, le rapport qualité-coût ne sera pas favorable. Quand la distance hiérarchique est trop grande, eh bien, faites ce que vous dit la table. Segmentez les groupes. Cherchez pas l'œcuménisme, dire « Oh, on est une grande famille, tout le monde est ensemble, et blablabla. » Non, 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 non. Faites bosser les cadres de production avec les cadres de production, les comptables avec les comptables, et ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est affaire de finesse, c'est aussi à choisir en fonction de ce que la phase précédente vous a appris. Est-ce qu'il y a des antagonismes? Est-ce qu'il y a des crises anciennes, des crises larvées qui ne demandent qu'à ressurgir, etc., etc. C'est en fonction de ce que vous aurez collecté que vous allez organiser ça généralement de manière la plus adéquate possible. Utiliser divers procédés pour stimuler la créativité, conseiller les résultats. Bon, ça, il y a toutes les techniques classiques, on pourrait dire des techniques de créativité. Hein. Lancer les gens sur un thème, par exemple, travailler d'abord sur thème, donc organiser le brainstorming par thème. Au contraire, faire des protocoles de dérision, d'autodérision. Enfin, tout ça est possible, à vous de voir. D'une manière générale, confiez ça à des gens qui sont spécialistes. Il ne le dit pas, la TAM, hein. Mais soit vous êtes un peu formé à ça, vous avez lu, vous avez fait quelques stages, par exemple, là-dessus, et vous pouvez le faire vous-même en tant que communicant. Normalement, vous êtes quand même peut-être les plus à même de le faire. Mais ne vous lancez pas dans un brainstorming, par exemple, sans avoir déjà eu une bonne expérience préalable avant d'être animateur. Hein, c'est facile de dire, on ne va pas censurer, comme je disais tout à l'heure, mais dans le regard, nous communicants, on sait ça. Dans votre regard, de posture, mimique, tout ce que vous voulez, vous allez faire... si pendant que quelqu'un parle, ouais, bon, d'accord, c'est bon. Donc, certes, vous êtes les meilleurs pour faire ça, mais peut-être qu'il faudra vous perfectionner encore pour être vraiment efficace. Alors, on peut prendre la méthode Delphi. Vous voyez ce que c'est, méthode Delphi? Non? Bon, c'est pas très malin, hein. Je vais avoir un diaporama là-dessus, bon, enfin, vous le trouverez sur le net. C'est du brainstorming organisé. C'est du brainstorming dont on essaye de hiérarchiser l'importance des sujets, etc. Ça a été très utilisé dans l'aéronautique. C'est très peu efficace. Parce que c'est antagoniste. Vous faites du brainstorming, vous n'êtes pas dans le jugement, dans la hiérarchie, etc. Vous faites la méthode Delphi, la méthode Delphi, tout le monde. Alors nous allons réfléchir à ça d'abord, et puis à ça, et puis à ça. C'est pas le bon moyen de faire surgir les idées et de aller étaler votre science du M1. Le brainstorming, on l'avait cité en M1, c'est le moyen de faire fonctionner votre science. C'est bien de s'entendre montrer comment c'est plus. Gentiment, sans écrabouiller les autres. C'est réseau. Le brainstorming fonctionne par association d'idées. Et l'association d'idées, le nom scientifique de l'association d'idées, c'est les réseaux.
Ouais, bravo, non mais c'est super, c'est bien.
La répétition, les réseaux sémantiques, bon sang. Ce truc complètement génial de réseau sémantique. Donc vous qui avez bien appris ce que sont les réseaux sémantiques, la preuve, vous savez, il n'y a aucun problème, eh bien, vous pouvez dire ce que vous voulez sur les réseaux sémantiques. Rappelez-moi donc la principale caractéristique rassurante à ces réseaux sémantiques. C'est comme le VO, ça ne s'oublie jamais. C'est-à-dire vous avez développé vos réseaux sémantiques à tel niveau, vous allez aller vous enterrer à ne rien faire de très excitant, allez-y, à vous en prie. De très excitant intellectuellement, de très excitant intellectuellement, et vos réseaux sémantiques qui vont se retrouver dans les tomes où j'étais un an ou deux ou trois ans avant. C'est extraordinaire, non? Par exemple, c'est ça. Vous avez beaucoup développé pour le mémoire de M1. Vous allez continuer pour le mémoire de M2. Admettons que, je sais pas, la malchance fasse que vous ne fassiez rien d'excitant pendant deux ans ou trois ans. Parce que, bref, c'est comme ça. Voilà. En deux, trois ans, vous retrouverez l'état de vos réseaux tel qu'il était au niveau du M1 ou du M2. C'est ça qui est extraordinaire quand même. Donc, c'est très rassurant comme truc. C'est-à-dire que là, au moins, c'est pas comme la gym. La gym, en fond, c'est très bien que si on arrête, ouais, bon, là. Hein, pas les réseaux sémantiques. Ils restent dans l'état où nous les avons laissés à un moment donné. Et ça, c'est quand même un truc extraordinaire qu'on avait expliqué l'an dernier.
Bon. Alors, Latham, lui, en son temps, en 95, ça concernait bien sûr les directions générales. Normal. Depuis, bah, on a progressé, et bien sûr, on a vu dans des tas d'opérations que le visioning peut concerner l'ensemble du personnel, et si ce n'est pas le personnel, les habitants d'une ville, les habitants d'un quartier,
les membres d'une association, etc., et que donc... extensible à l'infini en reprenant les mêmes méthodes que celles qui sont données ici, bien sûr. Mais en les structurant, hein, de façon très très
très logique, hein, très rationnelle. Par exemple, je crois qu'on avait cité Bilbao, la ville de Bilbao, qui avant de faire le musée Guggenheim a fait un visioning pour tous les habitants de la cité. Ce qui était quand même pas rien. Les questions qu'on leur pose. Ben les mêmes. Vous voyez la méthode? On collecte l'information avec ces grilles de questions. On organise des groupes de brainstorming, on reprend les mêmes questions. Vous voyez tout de suite que ça va donner. On va avoir une photographie de l'état de la présentation sur ces questions, phase 1. Et on va avoir des idées, des axes, des pistes issues du brainstorming sur sa même question dans la phase 2. Il est à prévoir qu'il y ait un gap énorme entre les deux. Vous pouvez prouver. Bon, ce n'est pas aussi des cultures de boîte. Dans une boîte de high-tech, peut-être que l'écart sera plus réduit. Peut-être. Bon. Donc, on aura vraiment deux représentations totalement différentes. L'une, la réalité, telle qu'elle est perçue, vécue, ça veut simplement le dire, et le brainstorming qui, lui, ira du côté du voulu. Vous voyez, je rattache ça à des approches que vous connaissez déjà très bien. Il est clair qu'à ce niveau-là, le brainstorming, de temps en temps, va s'écarter radicalement du possible, du faisable, du rationnel, bref, de tout ce qui est raisonnable. Normal, c'est pour ça qu'on a inventé le brainstorming, c'est pour ne pas être raisonnable. Arrive la phase 3, la synthèse. La TAM dit qu'elle doit être exercée par chaque groupe. Ok ? Ça, c'est le mode d'organisation des...
Dans les colloques scientifiques, on fonctionne comme ça. On fonctionne par thème. Mettons, il y a 3, 4, 5 thèmes qui sont traités l'après-midi. Et au bout de 2 jours, on fait la synthèse de ce qui s'est dit dans chacun des thèmes, des ateliers. quand vous êtes rapporteur d'un texte, c'est très marrant parce qu'il faut que vous fassiez la synthèse de ce qu'ont dit tous les gens pendant la journée, et on met ça en commun et on fait des synthèses progressives.
Alors, bien sûr que la synthèse, c'est la réduction du sens. Par définition, hein, c'est ce que veut dire la synthèse. Bon, mais il y a un certain nombre de garde-fous. Voilà. C'est l'élimination prudente de ce qui n'est pas pertinent. Redondance et bruit, j'en parle même pas, c'est évident. Bon, bien sûr. Mais ce qui n'est pas pertinent, c'est là où il faut faire gaffe. Alors vous,
il y avait de très bonnes idées sur la théorie de l'information, sur la redondance, sur le bruit, sur l'originalité. Tout ça, vous êtes au point. Hein ? Ça ne vous fait pas peur. Donc vous savez très bien comment vous débarrasser du bruit et de redondance et comment garder ce qui va être original. Parce que l'immense danger, ça, Latab dit avec beaucoup d'intelligence, l'immense danger, c'est que la synthèse, comme on dit souvent, ça réinvente l'eau tiède. Non, c'est-à-dire ça, tout ce qui était original, qui pouvait être bouleversé, il y a peut-être un mot qu'on connaît, que vos communications vous connaissez bien aussi. Qui va d'un coup s'écarter du sens commun, ce qui va être en rupture avec le sens commun. Le brainstorming fait souvent apparaître des ruptures sémantiques. Ça porte pas un nom quand il y a des ruptures et qu'on les encourage, qu'on les suscite, ces ruptures. Il n'y a pas une belle technique publicitaire inventé par un grand de la pub qu'on a vu en M1 aussi. Qu'est-ce qu'on envoie des trucs curieux. C'est pas mal de synthétiser tout ça, bon sang. Parce que là, vous avez des avantages par rapport à d'autres. Bon, alors, la technique qui consiste à faire des ruptures par rapport au mode de pensée traditionnel, hein, du genre je pense ça, on va faire comme ça. Ben voilà! Dites donc, je vous ai un peu aidé quand même, hein. J'ai un peu de rupture au moins 4 ou 5 fois, si avec ça ça se passe pas, qu'est-ce qu'il faut? Ah, rupture, hein. Disruption, bien sûr. Autrement dit, si votre synthèse élimine, rabote, ce qui est disruptif, vous plantez. Et c'est là où le communicant est vraiment important. Oui, je défends mon idée critiquée, vous avez dit que je m'étais fait un petit peu attaquer sur le mot pivot là. Bon. Et c'est là où, si vous connaissez le poids, l'importance, le succès, l'efficacité de la disruption, eh bien vous pouvez plus facilement peut-être que d'autres vous dire que ce qui est disruptif, il ne faut surtout pas l'éliminer. Vous voyez, c'est la phase la plus difficile peut-être que celle-ci, surtout qu'on n'est pas seul. Et qu'il va falloir articuler, on va dire, les conformistes, ceux qui veulent la synthèse. Alors, bon, toute ressemblance avec la République française en ce moment et l'art de la synthèse de son président ne serait que fortuite, bien sûr. Je ne vous suggère pas de faire une lecture de ce genre. Bon. Mais c'est vrai que la synthèse, quand ça gomme toutes les aspérités, quand il n'y a plus rien qui soit un petit peu innovant, novateur, disruptif, ben, il n'en sort rien du tout, et certainement pas de motivation. Et vous, en tant qu'habitué à la disruption, ben, c'est vrai, votre rôle de défendre ce qui fera peut-être sens, qui sera donc un peu, petit peu périlleux, un petit peu mal perçu par certains, il faut le défendre. Ça, c'est vraiment, hein, c'est le critère de pertinence. C'est, j'insiste là-dessus, parce que ça a dû vous arriver pas mal de fois, mettons dans une disserte de philo, que le prof vous dise hors sujet. La fameuse notion de hors sujet. Qu'est-ce que c'est que hors sujet? C'est ce qui ne rentre pas dans la pensée du prof. Est-ce pour autant en dehors du sujet qu'on peut très bien considérer qu'on a besoin de passer par tel point? Il n'est pas du tout hors sujet pour vous, il faut vous permettre de construire quelque chose, mais pour le prof, il sera hors sujet. Donc leur sujet est une notion référentielle. C'est complètement référentiel.
Et si vous faites cette synthèse avec un seul référentiel, là encore, je vais bien comprendre, ça me rappelle furieusement de mémoire, ça. Si je n'ai qu'un seul référentiel, ça ne collera pas. Dans notre langage à nous, alors propre au master ici, on pourrait dire que la synthèse devrait être multiréférentielle. Ça, c'est pas ce que dit Nathan, c'est ce que nous, on peut ajouter, ça devrait être multiréférentielle. C'est le meilleur moyen d'éviter la synthèse stupide dont il ne sortira rien que des idées creuses, imbéciles, bon, enfin, des trucs qu'on répète de tous les côtés, ils sont toujours les mêmes, ils sont nuls.
Mais qui rassurent aussi, bien sûr. Une fois que vous avez fait ces regroupements, alors par grande catégorie, bon, bah ça c'est évident, hein, parce que si vous êtes une grande organisation, il faudra faire des grands regroupements. Pour une ville, ça pourra bien sûr être...
Alors les citoyens, oui, c'est joli, mais on pourra descendre peut-être au niveau des quartiers, je ne sais pas trop quoi, hein, au niveau des professions, vous segmentez comme vous voulez. Pour une entreprise, évidemment, par grande catégorie, selon ses top management, selon ses agents de production, blablabla, etc. Ça, c'est assez facile. D'accord ? Là, je vais répéter encore un peu que le communicant, il est à l'aise avec ça. Parce que articuler un discours en fonction de différentes catégories publiques, tout en gardant la cohérence, normalement, vous savez faire. C'est votre boulot de parler un peu différemment à chacun pour que les gens comprennent mieux, mais que pour autant, ça reste cohérent sans que ça parte dans tous les sens. Vous avez appris à faire ça, au moins un peu en L3, si on peut dire, mais en tout cas, rien. En principe, vous savez faire. Je ne dis pas que vous avez toutes les expériences du monde. Hein. Avec quelques années, ça sera encore meilleur. Mais vous avez déjà un peu la pratique de ça, quand même. Alors que d'autres, qui participent au processus de visionning, n'ont pas cette pratique. Vous voyez, j'essaie de vous montrer l'avance que peut avoir un communicant bien formé, qui connaît bien ses pratiques sur ce genre de trucs. Il a de l'avance. Bien, traduction en langage presque courant. Une fois qu'on a fait ce processus de réduction, etc., bah, on va essayer de le traduire dans un langage presque courant. C'est-à-dire que là, on peut encore garder des sigles, des traits de vocabulaire propres à la structure, des appellations particulières. Je vous ai dit, quand j'ai visité Airbus, j'ai appris, je ne savais pas, parler d'ouvriers pour les types qui sont en train de faire les assemblages des pièces de l'Airbus, c'est un gros mot. Ah, c'est un gros mot. Ouvriers, oh là là. Non, parle des compagnons. Wow, c'est l'allure des compagnons quand même. Quand des cadres reçus vous font visiter SM, ils parlent des compagnons, mais jamais le mot ouvrier ne doit être employé. Il y a un moment où je l'ai employé, ça fait des gros yeux, quoi. J'ai fait un peu exprès, mais. Bon, surtout pas. Donc à ce niveau-là, vous gardez le vocabulaire, il n'est pas question de, hein, d'en sortir. Donc le langage presque courant, c'est le langage courant pour l'organisation, bien sûr, sinon pas question. Bon, précision et bouclage terminologique. Bouclage, c'est-à-dire faire en sorte que les mots soient bien compris, justement en fonction des publics auxquels ils sont destinés. C'est un petit peu comme quand vous faites la relecture de tel ou tel truc de communication, plaquette, site web, tout ce que vous voulez, en pensant bien au bouclage terminologique pour que vous soyez parfaitement compris par les publics qui sont les vôtres. Là encore, vous en avez bien l'habitude. Là, alors la TAM, qui est un perfectionniste obsessionnel, pour dire ça comme ça, il propose, lui, de recommencer à revoir s'il y a des redondances et du bruit sur cette traduction-là. Vous voyez. Il ne s'arrête pas, il dit... C'était Malherbe qui disait 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez et le repolissez sans cesse. C'est ça, hein, c'est Malherbe, je crois. Ouais, non. Vous ne savez rien, vous en foutez. Bon, c'est pas grave. Bon, tant pis. En tout cas, la phrase est belle, hein, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Recommencez. Il y a bien eu des profs qui ont dû vous dire ça, non, dans le collège. Avant de rendre votre disserte, relisez, supprimez les fonds, les répétitions, je sais pas quoi. Donc, ouais, c'est un petit peu ça qui veut dire. Alors faut-il le faire? Encore une fois, c'est la méthode la plus générale, j'ai dit au départ. Hein. Si vous pensez que ça c'est superflu, rien.
vous supprimez cette étape, ça n'a pas une importance vitale.
Mon petit schéma qui est là tente à faire voir qu'il y a une fleur qui est sur le point d'éclore et on va amener tout le monde à la voir ensemble. C'est ça le but du jeu. Alors moi je rajoute sous le petit schéma qui est là, essayez de dégager ce qui est consensuel, qui fait sens, hein, consensuel, dans lequel chacun va reconnaître le même sens. Donc ça c'est important. Peut-être ce qui est des tendances générales dans cette synthèse. On pourrait appeler ça des regroupements surcatégoriels ou des regroupements fonctionnels, si vous voulez. Essayez de voir si il y a des grandes tendances pour une évolution radicale des produits, par exemple, des services, et des évolutions managériales radicales. Si on est dans la rupture, si au contraire on est dans la continuité, etc., etc. C'est à vous de vous faire votre petite idée. Et je rajoute bien, ne surtout pas supprimer l'originalité. Ça, c'est pas la TAM, hein, c'est moi qui l'ajoute. En plus de la TAM, ça c'est la TAM. Et là, je l'ajoute ici, en forme de conseil, pour dire ça comme ça. Et je rajoute même, ça c'est peut-être pour les communicants que nous sommes, ne surtout pas viser la formule choc. Nous sommes dans la synthèse, il ne faut pas aller trop vite. On est pour des publics qui sont bien déterminés, bien choisis, qui font partie du processus, on n'a pas besoin de chercher la formule choc. Parce que c'est vrai qu'elle se mémorise, par définition, mais c'est vrai aussi qu'elle trahit.
Ça vous rappelle pas quelque chose comme démarche ? La problématique, je crois vous avoir dit qu'il vaut mieux une problématique un peu lourdingue, avec des répétitions, une phrase un peu pesante, quoi, mais hyper précise, rationnelle, qui a gagné sous le boulot. La problématique, ça va forcément avec une phrase, une beauté rhétorique parfaite. En particulier, je vous avais dit, méfiez-vous de l'usage des synonymes. Dans une problématique, il vaut mieux pas prendre de synonyme, parce que qui dit synonyme dit petite déviation de sens. Et ça collera pas. Donc il vaut mieux mettre une bonne vieille répétition, qu'un prof vous laisserait pas passer, parce que comme ça vous êtes sûr du sens. Donc c'est un petit peu ce que ça veut dire. Méfiez-vous de tout ce qui est trop beau, trop rhétorique, des formules choc et compagnie. Non, à ce stade, pas du tout.
Après, oui, mais on n'a pas fini. Bon, ça je l'ai dit déjà, hein. Souvenir des conditions de réussite, des cercles de progrès, je l'ai dit, les pairs, la non-hiérarchie, le non-jugement, etc. Alors j'ai marqué des conditions de réussite parce que je suis positif. J'aurais plutôt pu écrire des conditions d'échec, des cercles de progrès, hein, de qualité et de progrès. En France, c'est plutôt l'échec parce que justement, on n'a pas su réunir les bonnes conditions. Bon, alors, quatrième étape pour notre LATAM, dont le nom est toujours au-dessus. Voilà, rédiger une ébauche, dit-il, avec un énoncé préliminaire pour chacune des grandes catégories qu'on a isolées au départ. Pour la catégorie culture-idéologie, au sens là, pour la catégorie personnelle, et bien sûr pour les produits et les services. Et c'est là où on va commencer à exprimer la vision. De manière, si possible, compréhensible, voilà. Hein, c'est ce que je viens de dire, par des mots simples et compréhensibles, par des phrases représentatives et motivantes, dans lesquelles on se reconnaisse, dans lesquelles on puisse s'identifier, parfois, carrément. Hein. Ça marche quand on s'identifie. Le discours de Branagh, dont je parle, enfin, Branagh de Shakespeare, interprété par Branagh tout à l'heure, on s'identifiait, quoi. C'est souvent sur l'identification que ça fonctionne, pas toujours, mais bon. On y met l'originalité sans excès, faut pas que ça soit le bon mot pour le bon mot, mais au contraire que ça fasse sens. Alors si on trouve quelque chose qui à la fois fait sens et est original, c'est encore mieux. Hein. Mais, ça se fait pas bien. Alors qui rédige cette ébauche ?
Bon, à qui rédige cette ébauche, généralement, c'est les rapporteurs des groupes. Ce qui vous permet encore de moduler en termes de largeur, d'ouverture, d'aspect basiste, comme on a dit, ou pas. La bêtise, si vous voulez que ça rate, c'est de demander au chef et au chef tout seul de faire le boulot. Hein, si vous ne demandez pas l'aide des rapporteurs, donc avec des hiérarchies, des niveaux hiérarchiques diversifiés, vous êtes à peu près sûr que si c'est la hiérarchie qui s'empare de la chose, votre vision n'aura plus. J'ai montré des exemples de vision qui étaient totalement technocratiques, stupides, dans laquelle vision personne ne se retrouve, parce qu'on sent bien que c'est un langage qui n'a rien à voir avec ni la réalité vécue par les gens, les salariés, ni avec ce qui pourrait entraîner un petit peu d'adhésion, voire d'enthousiasme. Il est important de ne pas déposséder les rapporteurs des différents groupes vus dans les étapes précédentes, ils continuent de bosser. Alors, après, l'organisation pour bosser, la table n'en dit rien. Et c'est là où les coachs qui font du visioning vont avoir leur propre méthode. Je vous en montrerai moi-même une ou deux, mais ceux qui font ça très bien et que vous allez connaître bientôt vous donneront leur méthode. Et en plus, chacun d'eux a plusieurs méthodes en fonction des circonstances. Je vous dirai, vous savez, quand je bosse dans un hôpital avec la direction de l'hôpital et les syndicats, c'est pas la même chose que dans la PME, je sais pas quoi, et c'est encore autrement que dans le grand monde. Donc c'est là où il y a le plus de liberté de méthode, comment est-ce qu'on va organiser ça, comment est-ce qu'on va faire. Il y a des méthodes marrantes avec des post-it, enfin bon, on verra. Peut-être qu'il faudra que vous preniez des post-it pour une prochaine fois, c'est pas sûr. Voilà. Bon, donc ça, je laisse tomber ce truc. Je passe sur le... Bon, là j'ai mis des images, mais je me suis trompé, voilà. Cinquième étape. Ça, c'est très original. La TAM insiste beaucoup sur ce qu'il appelle polir les énoncés. J'ai repris le terme en anglais. Hein.
Je n'ai pas trouvé de meilleure traduction. Puis, ça m'a amusé parce que... sans cesse sur le métier, hein, policier, vous allez repolisser. C'est pourquoi j'ai pris polir, la citation de Malherbe de tout à l'heure. Hein. Donc, polir, au sens Malherbe, polir son énoncé. Ça ne vous choque pas trop le mot polir? Faites-vous des sortes de menuisiers ou des bénisses? Poncer, c'est pas polir. Hein. Bon, bref. Alors, polir, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient les plus parfaits possibles. Polir, c'est ce qui va attendre vers la perfection de la surface. Hein, en ébénisterie, c'est ça. Bon, donc énoncé définitif, on retrouve bien sûr. Là, on n'est plus dans l'ébauche. À propos de l'ébauche, j'ai dit que c'était possible de tout faire. L'ébauche, on peut très bien la faire descendre auprès des groupes, demander leur aval, remonter, on peut faire des navettes aussi. Hein. Tout dépend de la façon dont vous voulez que chacun s'approprie votre vision. Plus vous voulez qu'elle soit partagée, plus vous avez intérêt à supporter, mais c'est long, parfois pénible, des navettes. C'est surtout pénible dans les navettes, c'est quand les gens remettent en cause des trucs avec lesquels ils étaient d'accord auparavant. Ça, c'est un classique. Ça vous est jamais arrivé, ça encore, non, dans un stage hein. Vous faites le compte-rendu d'une réunion, on est tous d'accord, bon... Et puis la fois d'après, il y en a un ou deux ou trois qui ne sont plus d'accord avec ce qu'ils pensaient la fois d'avant. Et là, on a beaucoup de mal à pas s'énerver. Il n'y a pas les traités d'inconséquent, pour dire ça. Gentiment.
Bon, donc énoncé définitif, pour laquelle opération de polissage, on peut se faire aider de professionnels. De professionnels du verbe, c'est-à-dire de rédacteurs. Regroupement général de ces énoncés, on a une vision globale. Ça, c'est pas forcément toujours simple, et c'est là où on peut travailler autrement que la TAM. Et ça ferait un vrai débat. La TAM, il est au fond très cartésien. Il dit, je sépare, vous voyez, parce que c'est plus logique. Et une fois que j'ai séparé, je regroupe en vision globale.
Dites-moi, ça vous rappelle rien, ce cheminement intellectuel ?
Et cette interrogation que je me pose en ce moment, est-ce que je raisonne par étapes distinctes et qu'en les regroupant, ça me fait quelque chose qui est global? Ou est-ce que je l'attaque directement par global? Ça vous rappelle rien que vous avez vécu l'an dernier? Dans la mémoire. J'ai entendu variable, ouais. C'est plutôt les hypothèses. Ben oui. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est bien ça. Et si on vous démarrait de la problématique générale, et vous la décomposez en hypothèses, ça serait de vous démarrer la vision globale. C'est souvent le cas quand c'est une vision du chef charismatique. Le chef charismatique, lui, il est où le chef charismatique? Il est là. Il a une vision globale. Et ça va se décomposer, paf, paf, paf. Si vous faites une démarche basiste, avec beaucoup d'acteurs qui vont être concernés par l'opération de visioning, eh ben vous serez obligé, vous n'allez pas faire une vision globale pour tout le monde, ça veut dire quoi? Vous allez réunir 100, 200, 300 personnes dans une salle en disant on fait une vision, c'est le meilleur moyen de vous planter. Donc là, vous allez au contraire raisonner de façon très, très parcellaire, hein, par unité de public, de catégorie, de je ne sais quoi, c'est ce qu'on a bien là, et après, vous le remontez. C'est-à-dire, on avait dit aussi, vous pouvez partir des hypothèses, et par contre, les hypothèses, vous les recombinez pour donner la problématique. On pourrait presque aller jusqu'à dire une chose tout simple. Osons le dire. Maintenant que vous êtes rentré. Au fond, une problématique. C'est une vision. Ah, grande découverte. On dit que c'est une vision. Et c'est encore plus fort. Parce que par exemple, quand j'avais parlé de ça avec Vincent Lénard, quand on dit que c'est une vision, c'est exactement ça, parce que le cadre, s'il a la problématique qui est en même temps une vision, il a de quoi faire comprendre le sens général et faire en sorte que chacun s'y retrouve pour mener une opération qui doit mener au mieux la problématique. C'est-à-dire, c'est à la fois bien au plan intellectuel, au plan cognitif, mais c'est bien aussi au plan psycho-relationnel. Vous gagnez sur les deux tableaux. Donc si une problématique est une vision est aussi une problématique. Voilà ce qu'on peut dire. C'est du réversible. Bon, donc choix définitif des mots et des phrases, on l'a dit. C'est le moment à vous amuser, hein, à trouver des déclencheurs symboliques, générateurs d'images mentales fortes et stables. Là, c'est tout le boulot de com, au sens rhétorique, comme on le fait en pub, par exemple, si vous voulez. Hein. Bon. Et c'est pourquoi je dis que vous pouvez vous faire aider à ce stade-là, pourquoi pas. Par des professionnels de la chose. Soit vous êtes assez bon vous-même, pas de problème. Soit, vous pouvez vous faire aider. Il y a là encore débat, hein. Encore débat. Il y a des gens qui disent que, oui, mais se faire aider, c'est un regard extérieur, donc ça va remettre du bruit. Et qu'il vaut mieux, pour cette opération, rester, voilà, je sais pas. Une fois, c'est l'an dernier, ou je sais plus, il y a 2 ans, c'était l'an dernier. Un étudiant particulièrement facétieux avait dit, bah oui, c'est comme les relations conjugales. Ouais. Soit on se débrouille, soit on va voir le conseiller conjugal. J'avais jamais pensé à ça. La fois, je m'en rappelle, mais c'est très marrant comme ça. Bon, ouais, je sais pas. C'était la manière de faire comprendre que soit je fais appel à un tiers qui va s'occuper de mes affaires privées. C'est ça l'idée. C'est quand même très privé, cette affaire de vision. Donc est-ce que c'est bien de prendre un tiers qui va vous aider à... Certains pensent que oui, et c'est tant mieux pour eux, certains pensent que non, c'est leur problème. Bon, c'est pour ça que la boutade, ça m'avait bien fait marrer, alors je vous la ressors.
Mais peut-être que vous en avez une autre, ou une boutade de je ne sais pas quel genre, sur ce truc-là. Mais c'était très très marrant. Alors là, on va faire... oui, vous devez y aller aussi. Hein. Ouais. Non, c'est pas moi qui suis en retard, non, c'est vous partez en avance. Oui, d'accord. Bon, je me disais, ça y est, j'ai oublié l'heure ou quoi? Normalement, ça va se terminer à l'heure. Bon, les codés et les surcodés, là, on est bien dans la com archi-classique, hein, d'accord? Le poids des mots. Vous n'avez que droit qu'au poids des mots, hein. Même si une vision doit être visuelle, une vision, c'est pas une image. Vous balancez pas, j'ai jamais vu, ça serait marrant, juste l'image qui pourrait suffire à elle-même, non? Pourquoi pas, remarquer, on pourrait très bien penser qu'avec un dessin, une photo, non. Mais un dessin, on pourrait exprimer une vision. Ouais. Mais je ne l'ai pas vu. Ça serait intéressant d'ailleurs. Bon, on effectue une valeur imaginaire ajoutée propre à l'organisation. Ça, c'est aussi votre boulot. Vous avez l'habitude de ça, c'est classique en pub.
J'utilise des images. Donc, je fonctionne sur symbolique, les connotations, machin, tout ça, ça roule. Tout ça, c'est classique, classique. Mais en plus, il faut faire en sorte que ça soit bien attaché à l'imaginaire de l'organisation. Il ne faut pas que ça parte n'importe où. Ok ? Et ça, c'est votre boulot de communicant aussi, de savoir gérer les images symboliques et de faire en sorte que les images symboliques suscitées par les phrases de la vision, les mots de la vision, soient en résonance avec les images symboliques propres à l'organisation. C'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de mise en cohérence. Il faut que ce soit cohérent avec l'organisation. Vous reprenez Colin Sporas, pour trouver les valeurs. On doit voir dans la vision, exactement comme la problématique, vous vous rappelez, dans la problématique, on doit voir les moyens de la valider. Vous vous rappelez ça? Eh bien, dans la vision, on doit voir ce qui est du domaine des valeurs de l'entreprise. Ouais. Quand je dis on doit voir, c'est pas direct, hein. Parfois, il faut gratter, c'est très, 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 très implicite. Et c'est souvent codé, pourquoi je le dis, surcodé. Seuls ceux qui sont qui connaissent le code vont le repérer. Ceux qui ne connaissent pas le code, ils ne vont pas le repérer, et ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, c'est destiné à l'interne. Hein, la vision, dois-je dire que la vision concerne exclusivement l'interne? Bien sûr qu'après, on va communiquer sur la vision à l'externe, mais beaucoup plus tard. Bon, alors je vous dis, attention, consacrez un temps suffisant à cette étape cruciale. Il arrive souvent qu'à ce stade-là, on en ait marre, parce que ça fait déjà un moment qu'on a commencé, on a envie de finir, on a envie de boucler, on dit, bon, ça va, c'est bon, d'accord, c'est comme ça qu'on peut se planter. Voilà, bon, là, je fais apparaître la forme, enfin bon, oui, la forme, c'est ça. Vous voyez, c'est ce que j'essaye de symboliser. Derrière n'importe quel environnement, vous devez toujours voir la structure. C'est parce que j'avais écrit un petit article il y a des années qui s'appelait la survision. Avant de connaître la vision, hein, ça fait très longtemps, j'avais... Voilà. Bon, avant-dernière phase, tester. Là, on est dans du testing classique. Vous le testez, alors, auprès de qui vous voulez, hein, auprès de public cible, de panel, auprès de tous ceux qui ont participé au processus, ça va sans dire, éventuellement à des cibles nouvelles, et vous testez pour chacun des thèmes si ça marche, vous testez les énoncés pour la vision globale, vous posez les questions, est-ce qu'elle est intemporelle, est-ce qu'elle est une source d'inspiration pour chacun, est-ce qu'elle fournit des outils sérieux, efficaces, etc. Vous regardez l'appropriation symbolique, enfin tout ça. La phase de test est là aussi longue, souvent ingrate. Et là encore, c'est à vous de voir, en fonction de l'histoire de la structure, si vous pouvez faire des retours en arrière ou pas. Évidemment, il vaut mieux que les tests soient positifs, parce que quand ils ne sont pas positifs, bonjour. Vous savez à quel niveau qu'ils font monter souvent quand ils ne sont pas positifs? À l'étape 2. Pratiquement, il faut remonter au brainstorming, vous dire j'ai peut-être oublié des trucs. Peut-être que dans ce qui était jugé non pertinent, j'avais la pertinence, donc je reprends. Vous voyez, le bouclage, il ne vient pas à l'étape N-1, on est à l'étape 6, il ne suffit pas de revenir à la 5. Non, il faut souvent remonter beaucoup plus haut dans le travail. D'où le fait que si les tests sont négatifs, eh bien vous en prenez pour un bon bout de temps pour essayer de rattraper le coup. Capacité de résister au choc, etc. Bon, ça, c'est toutes les caractéristiques. Et enfin, alors là, bon, je le fais à nouveau réapparaître parce que la forme, elle était là, mais c'est pas le bon diaporama, il faut, oui, c'est pas grave. Voilà. Obtenir l'approbation de l'organisation ou apporter des modifications. Je me sers de l'illustration de Léonard de Vinci. Expliquer le processus, décrire la vision, recueillir les avis et discuter les aménagements. Oui, voyez, parce que la table différencie bien la vision qu'on explique à ceux qui l'ont faite
de la vision qu'on explique à ceux qui ne l'ont pas faite. En 95, il paraissait évident que seul l'état-major définissait, déterminait la vision. Cette étape 7 peut être supprimée si vous avez été très très basiste. Si vous avez démarré le processus très bas dans la hiérarchie de la structure, cette étape ne sert à rien puisque c'est rempli par la 6. À vous de voir. Mais comme il y a encore des visions qui monopolisent l'encadrement, parfois on va jusqu'à la maîtrise, aux agents de maîtrise, mais c'est quand même rare qu'on descende plus bas. Hein. Ce qui fait que cette étape reste encore relativement valable
dans les cas où tout le monde n'est pas associé au processus. Il est clair que dans les boîtes comme celles dont on parle dans Liberté et compagnie, ça ne sert à rien. Enfin, voilà, la dernière, j'avais dit 7 parce que j'en sautais une. La dernière, communiquer et célébrer. La communication est au cœur du processus, la fiabilité de l'ensemble va dépendre de la qualité des réseaux, bien sûr. Là, vous communiquez sur la vision, telle Vénus,
de qui est ce merveilleux tableau, que vous pouvez voir à Florence, à la Galerie des Offices. Il est immense, hein, il fait 4 mètres.
Bien sûr, tout à fait à côté de
celui. J'ai la chance à Florence que le soleil donne à un moment sur le tableau. Donc je l'ai vu pendant quelques secondes illuminé par le soleil. Mais au bout de 5-10 secondes, clic, les cellules qui commandent les volets automatiques ont détecté que le soleil arrivait sur le poste de tableau, et d'un coup, on est revenu avec l'éclairage du musée classique. Mais on était, bon, forcément, il y a du monde, on était 20-30 personnes, comme ça. Mais ça durait quelques secondes, en plein soleil. Et après, il y avait l'éclairage. Bon, donc la vision, elle est là, bien sûr. Explication, commentaire, clarification, blabla truc. Vous célébrez, hein. Ce qui compte, c'est vraiment de la célébrer. Voilà, bon. De la célébrer, je vous ai mis ce tableau de Magritte qui est très marrant, de la célébrer, et vous pouvez en terminer avec ça, avec un plan stratégique flexible. Alors, ouais, bon, le grand cabinet Grove Consultant, ça c'est le schéma. Après la table, le scientifique. Il y a des gros cabinets qui font ça depuis très longtemps. Le plus célèbre est le cabinet Grove, qui a fait ça pour les très grandes entreprises mondiales. Et c'est ce que font une partie de vos intervenants. Vous verrez si d'aventure vous parlez avec eux. Mais attention, il ne faut pas que le visionning vous en fait un petit bout avec Pierre Barret. Mais avec les autres, vous pouvez en parler. Et ils ont d'autres interventions, je vous ai mis les titres. Souvent, c'est comme ça, vous voyez. Sur le mur de gauche, on va mettre le passé. Sur le mur central, on va mettre les actions. Et sur le mur de droite, ici, on va mettre le futur en tel qu'il est envisagé. On a une bande de Mébius qui tourne dans ce sens-là, où on passe de l'un à l'autre, où le passé et le présent vont alimenter la réflexion sur le futur. Et très souvent, sur ce mur-là, on dispose, alors c'est avec des post-it, des petits bouts de carton, de couleurs, ce qui concerne tel ou tel truc, et chacun va proposer. Alors c'est très marrant quand on fait ça. Ensuite, on collecte l'ensemble, et voilà comment est-ce qu'on fait. Celui de Auchan, pour créer le Roi Merlin, dont je vous ai parlé dès le début, il a été fait comme ça, par cette méthode-là. C'est la méthode la plus communément utilisée, avec des variantes de toute nature. Voilà, je voulais au moins que vous voyez la méthode Grove, qui est la plus célèbre. Tiens.
Bon, voilà, bah, donc je m'occupe de voir ce qu'il n'a pas sur... sur Google Drive, là, il y a encore un truc, je sais pas ce qui s'est passé.